Et Vinny Mohamed.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour nous faire du bien, nous rassurer s'il le faut. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à l'anorexie mentale, un trouble psychiatrique qui se déclenche le plus souvent entre 14 et 17 ans. À 90%, ce sont des filles qui en sont victimes. Alors quelles sont réellement les causes de l'apparition de cette pathologie? Comment se fait aujourd'hui la prise en charge? Vous verrez que pour guérir, bien souvent, l'ado concerné, eh bien ça passe par une thérapie familiale. Alors pour nous décrypter ce trouble, notre invité, ce sera le professeur Marie-Rose Moreau, professeure à l'Université de Paris. Elle dirige également la Maison de Solène, la maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien, nous ferons un zoom cet après-midi sur l'œdème de Quinck, une réaction inflammatoire et allergique qui peut être très impressionnante. Alors, comment réagir si vous vous trouvez un jour face à cette urgence? Comment la traite-t-on? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, avec elle, on parlera de drogue et de sexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou bien celles que vous nous envoyez par courrier, parfois même. Justement, celle qu'on va prendre tout de suite est celle d'Arnold qui nous a écrit une longue lettre très touchante. Arnold voulait en savoir plus, Jimmy, sur l'une des opérations qui permet de lutter contre la dysfonction érectile, celle qui consiste à insérer une prothèse dans le pénis reliée à une pompe. On fait le point sur cette intervention. Alors, pas avec vous, Jimmy. On a interrogé le professeur François Desgrandchamps. Il est chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Le principe de la prothèse pénienne, ces deux opérations ne sont pas des grosses opérations qui durent à peu près une heure et demie, peut-être deux heures. C'est fait dans beaucoup de centres en France, mais c'est encore des centres très spécialisés. Il y a un risque de complication parce que ces tuteurs sont un matériau synthétique, c'est une sorte de plastique, et donc il y a un risque d'infection. Et l'infection est dangereuse sur ces tuteurs parce qu'il faut alors enlever la prothèse. Mais le risque est faible, c'est autour de 5% de risque d'infection, pas plus. Après, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Ben, j'aurais tendance à dire oui. Le taux de satisfaction de ces prothèses est très très élevé. C'est 75-80% des patients sont heureux d'avoir ces prothèses et heureux pour longtemps parce que ces prothèses sont des prothèses durables. Les études au long cours de ces prothèses jusqu'à 20 ans montrent que les prothèses sont encore actives une fois sur deux 20 ans plus tard. Après, en fonction de sa vie sexuelle, de son désir, on l'utilise, on l'utilise pas, mais on sait qu'on l'a et que si on voulait, on peut. Et donc, ça rend de cette façon les gens heureux.
Très bien, c'était le professeur Desgrandchamps au micro de Benjamin Lévesque. Jimmy, on va prendre une autre question d'auditeur, c'est la question de Marie, on l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie, je vous téléphone en fait, je fais régulièrement des sinusites qui durent 2-3 jours, c'est assez pénible. J'ai pas vraiment consulté encore parce que c'est pas vraiment méchant, mais est-ce que ça vaut le coup selon vous d'aller voir un médecin pour ça, histoire d'éviter que ça revienne en fait? Merci.
Alors bon, Jimmy, je pense que vous direz jamais à un auditeur, puisqu'on ne fait pas de consultation ici, bien évidemment, de ne pas aller consulter. Il faut aller consulter Marie. On va quand même faire un petit point sur la sinusite, puisque c'est votre sujet. C'est quoi précisément une sinusite, Jimmy ?
La sinusite, c'est l'infection des sinus. Les sinus, ce sont des cavités qu'on a au niveau du visage.
Et au-dessus comme... des yeux, hein,
exactement.
C'est ça.
Exactement. Alors, comme les testicules, ils évoluent par paires. Il y en a deux à chaque fois. Vous avez quatre paires de sinus.
Je ne sais pas pourquoi vous comparez ça à ça, tout d'un coup.
C'est comme ça. C'est un peu ce qui me venait.
Parce qu'on vient de parler de prothèse pénienne, alors peut-être.
Hein, alors, vous avez des sinus au niveau maxillaire, au niveau des pommettes. Vous en avez deux. Vous en avez au niveau du front. On appelle le sinus frontaux. Vous en avez au niveau du coin interne de l'œil, juste au-dessus du nez. On appelle ça ethmoïdal, les sinus ethmoïdaux. Et puis, vous en avez des sphénoïdaux derrière les yeux.
Oh oui.
Et dès lors que vous avez une petite infection, eh bien, ça peut s'infecter et donner cette sinusite qui va se caractériser souvent par de la fièvre, un nez qui va être bouché et des maux de tête insupportables. Mmh. C'est la caractéristique. Les gens ont l'impression que la tête va exploser. Et en particulier, lorsqu'ils se penchent en avant, eh bien, la pression augmente et donc ça fait encore plus mal à la tête. Et ceux qui font des sinusites, en général, reconnaissent assez bien les symptômes.
Ouais, vous avez dit justement que c'était causé par une infection. Donc c'est quoi, virus, bactérie? Par quoi c'est causé une sinusite?
Dans l'immense majorité des cas, ça commence par une rhinopharyngite banale, un rhume. Assez rare chez l'enfant puisque les sinus n'apparaissent pas dès la naissance. On en a quelques-uns, on appelle ethmoïdaux dans les premiers mois de la vie, mais au niveau du front et au niveau des maxillaires, c'est pas avant 4-5 ans. Ouais. Donc vous allez avoir un rhume que vous allez parfois ne pas traiter. Les sécrétions vont s'accumuler dans les cavités et donner cette sinusite avec une surinfection bactérienne qu'on traitera ou pas en fonction de l'intensité des symptômes.
Bon, Marie, elle a l'air de prendre ça un peu par-dessus la jambe, même si apparemment elle en souffre. Ça vaut le coup de consulter. Il y a des traitements efficaces contre la sinusite ?
Alors, le premier, c'est le traitement de la rhinite, le fait d'avoir un nez en permanence qui coule, qui va être source de sinusite. Donc, peut-être qu'elle a une allergie, peut-être qu'elle a un reflux, peut-être qu'elle a des polypes dans le nez qui peuvent justement lui donner ces sinusites à répétition. En revanche, souvent, les patients qui font des sinusites à répétition se demandent s'il ne faut pas se faire opérer. Or, l'intervention sur les sinus marche moyennement. Le taux de satisfaction est assez faible. Chez certains, ça peut aider, mais souvent, il y a des récidives et quelques mois, quelques années après, eh bien, on se retrouve dans la même galère. Donc, la seule chose à faire, si jamais vous avez le nez encombré, eh bien, c'est de le laver.
Ou sérum d'acheter physiologique, eau de mer, tout ça.
Exactement. C'est valable chez les enfants, chez les adultes, car vous risquez une otite. Et puis, il existe des poires de lavement qu'on appelle Rhinohorn, qui existent sur les ventes de plateformes en ligne ou en pharmacie. Ça lave le nez de façon hyper efficace, ça marche très très bien et ça peut vous éviter des sinusites, surtout quand vous avez un terrain particulier.
Merci beaucoup Jimmy, c'était très clair. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions comme Marie, au 39-21, 50 centimes d'euros de la minute, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour, c'est le professeur Marie-Rose Moreau, professeur de psychiatrie de l'enfant, qui va nous décrypter un trouble mental qui touche surtout les adolescents et même plus largement les adolescentes. On va s'intéresser à l'anorexie mentale dans quelques minutes. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, professeur Marie-Rose Moreau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant à l'Université de Paris. Vous dirigez également la maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Et je signale aussi votre dernier livre sur les ados justement. Ça s'appelle Grandir, c'est croire chez Bayard. Professeur, avant de commencer, puisque je viens de la citer, la maison de Solène, c'est quoi rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas?
Alors, la maison de Solène, c'est une maison des adolescents. Donc, il y en a une petite centaine en France, mais celle-là est une grande maison des adolescents qui accueille donc les adolescents, quelle que soit leur pathologie, et en mettant au service des adolescents l'ensemble des soins et des accueils possibles. Donc, c'est le principe d'une maison des adolescents. Donc, nous, on a une hospitalisation, un hôpital de jour, un accueil sans rendez-vous, et puis beaucoup, beaucoup de consultations. 3000 ados par an et leurs familles.
Quand même.
Alors, le sujet du jour, c'est l'anorexie mentale. On a tous entendu un jour ce mot, on connaît tous un peu près ce que c'est, mais est-ce qu'il y a une définition claire qui permet justement de dire exactement ce que c'est ?
Oui, alors oui, c'est assez facile à définir. L'anorexie mentale, c'est le fait de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir, et de lutter contre le désir de manger. Donc c'est très actif. Et donc ça engage l'ensemble du développement. Mais c'est vraiment ne pas pouvoir manger et ne pas vouloir, c'est-à-dire s'opposer à ce désir de manger. On ne peut pas. Ni le corps, ni le fonctionnement psychique. Vous disiez affection psychiatrique, Mélanie, c'est vrai. Mais ça touche l'ensemble du corps, l'ensemble du développement.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée de combien de patientes, je dis patientes parce que je crois que c'est quand même essentiellement féminin, vous allez nous dire, mais sont touchées en France à peu près par cette pathologie ?
Alors oui, on a actuellement 10% d'une classe d'âge. En ce moment, c'est un peu plus, c'est 15% d'une classe d'âge, donc de la classe des adolescents, on va dire de 15 à 21 ans, qui souffrent d'une pathologie psychologique. Donc c'est beaucoup. Et bien, sur ces 10 à 15% en fonction des périodes, il y a à peu près 15 à 17%, actuellement c'est plutôt 17% de cette population qui souffre d'anorexie. Donc vous voyez que c'est une des traductions importantes de la souffrance psychique, c'est des milliers d'adolescentes.
Je reviens un tout petit peu en arrière quand vous avez dit qu'on ne peut pas manger, mais est-ce qu'on ressent la faim ? Est-ce qu'on s'oppose justement ? Puisque physiologiquement, on a ce petit coup de ce creux, le midi, le soir, ça rythme un peu nos vies. C'est des gens qui ne ressentent pas la faim.
Alors, au début, elles ont, je dis elles parce que c'est en majorité plus de 90% des filles, mais il y a quand même 10% de garçons. Au début, on ressent la faim. Et ensuite, progressivement, on va rentrer dans un cercle addictif. On va lutter tellement contre cette faim qu'on ne la ressent, plus. Et on a des cognitions, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, on pense toute la journée à ça.
Ah oui.
Est-ce que si je mange deux petits pois,
ça va changer quelque chose
sur
la balance,
changer complètement, etc. Donc, au début, vous avez faim. Progressivement, vous n'avez plus faim. Et en fait, vous devenez addict. vous devenez dépendant de cette sensation, de cette élation, de ce plaisir finalement à ne pas manger. Mmh. Donc c'est assez complexe du point de vue de la faim.
On vient de dire que c'était un trouble de l'adolescence en grande majorité, mais il y a des adultes aussi hein, qui peuvent être touchés.
Alors c'est en majorité l'adolescence au sens vrai, c'est-à-dire 11-20 ans. Mais il y a des adultes, d'abord il y a des adultes qui ne sont pas guéris adolescents oui. et qui restent. Il y en a aussi qui vont déclencher une anorexie adolescence, mais c'est chez l'adulte, mais c'est un principe un peu différent. Et en fait, il y a une forme qui apparaît en ce moment qui est l'anorexie de la femme ménopausée au début de la ménopause, c'est-à-dire dans les phases de transition finalement.
C'est un peu nouveau ça, vous dites.
Oui, c'est un peu nouveau. Et de la même façon qu'il y a une autre tranche d'âge qui commence à souffrir d'anorexie, qui est ce qu'on appelle l'anorexie prépubère. Parce que normalement, l'anorexie classique de la jeune fille, elle apparaissait au moment de la puberté. Ouais. Et maintenant, on voit apparaître des jeunes filles, 9, 10 ans, CM1, CM2, qui vont avoir cette tentation de s'opposer à cet acte vital et à lutter de toutes leurs forces.
Et on l'explique par quoi, ces nouveaux comportements? Parce que je suppose que l'anorexie, ça existe peut-être depuis très longtemps, mais cette nouvelle forme, est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux, à l'image qu'on renvoie du corps des femmes, lié aux mannequins notamment, qui doivent être toutes fines? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Ou encore, pour l'instant, on ne sait pas.
Alors, vous avez raison, l'anorexie existe depuis toujours et partout.
Hein. Mais toujours, on parle depuis même, toujours, au Moyen-Âge, il y avait de l'anorexie.
Oui, mais même avant, dans l'Antiquité, il y a des récits de saintes, par exemple. C'était plutôt l'anorexie des jeunes femmes. Vous regardez dans les récits des saintes, elles ne mangent jamais, elles luttent contre l'envie de manger. Donc l'anorexie, ça existe depuis très longtemps, ça existe dans plein de continents différents. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes filles anorexiques en Afghanistan pendant la guerre, par exemple. Donc, c'est vraiment des situations différentes, mais où on retrouve de l'anorexie, même s'il y a des variations. Hein. On n'exprime pas de la même façon. Alors, précisément, pourquoi pourquoi l'anorexie prend des visages un peu différents? Mais en fait, les adolescents, ils sont très sensibles à l'air du temps, au contexte, puisqu'ils sont en train finalement de constituer, de rentrer dans cette société. Et donc, ils perçoivent bien les paradoxes de la société. Et donc, il y a des modifications, par exemple, la forme du garçon. Les garçons deviennent eux aussi sensibles à cette idée que parfois, il faut résister, que parfois... Pas oublier que l'anorexie est une pathologie, donc c'est une souffrance. Donc en fait, c'est une tentative de régler des questions. On souffre et on cherche des manières de régler ça. Parfois, c'est en ne mangeant pas.
Professeur Moreau, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce décryptage sur l'anorexie mentale. À partir de quand faut-il s'inquiéter pour son adolescente? Quels sont les symptômes d'un début d'anorexie? Vers qui faut-il se tourner? On va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, professeur Marie-Rose Moreau. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant à l'Université de Paris et que vous dirigez également la Maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. On parle donc d'anorexie cet après-midi avec vous. Est-ce qu'on connaît justement les causes, finalement, les facteurs qui vont déclencher une anorexie?
Alors, c'est toujours complexe parce que toute cette pathologie, cette souffrance qui touche le fonctionnement psychique et le corps, hein, j'insiste beaucoup sur le fait que tout est touché, évidemment, il y a plusieurs causes. Alors, beaucoup de travaux également. Alors, un premier niveau qui sont des raisons psychologiques. C'est-à-dire que dans cette période de construction, le rapport à la nourriture, le rapport à la vie, le rapport à l'envie de vivre est touché. Donc c'est quelque chose de l'ordre de l'élan vital. Donc ça, c'est purement psychologique au sens vrai du terme. Ensuite, il y a des facteurs qui viennent se surajouter. Par exemple, il peut y avoir des composantes génétiques, c'est-à-dire un terrain. Il n'y a pas de gènes, hein, mais il y a un terrain. Alors il y a un terrain, puis il y a aussi dans les familles, d'une génération à l'autre, par moment, quand on va mal, on peut s'exprimer comme ça. D'accord. Donc il y a à la fois génétique et puis une transmission. Et chez les garçons, par exemple, on pense que le déterminisme génétique est un peu plus fort que chez les filles. Et puis, par ailleurs, ensuite, il y a des constellations familiales. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des choses qui se passent mal, cause ou conséquence. Il y a une relation qui se passe mal, la nourriture étant une des formes des relations familiales.
Alors, quand on parle d'anorexie mentale, on comprend qu'on ne va pas grossir et qu'on va même perdre du poids, mais dans l'imaginaire des gens, ce n'est pas très grave. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences physiques, justement, d'être trop maigre ? Parce que malheureusement, ça n'a pas juste se remarquer sur la balance. Toute la santé est impactée.
Alors, toute la santé est impactée. En fonction de l'âge, les causes sont encore plus grandes, mais il y en a toujours. Déjà, il y a les aspects endocriniens. Hein, donc,
par exemple, leurs règles.
Alors, les règles rentrent dans le tableau d'anorexie, hein, mais on n'a pas les règles, mais il y a sur le plan hormonal, des modifications hormonales importantes. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le calcium, le développement des os. Donc, si par exemple, vous faites une anorexie très précoce, vous allez avoir une petite taille et rien ne va se développer. Donc il y a des conséquences très très importantes. Vous avez des os d'une vieille dame, hein, donc une ostéoporose très importante. Puis vos muscles également. Les muscles ne fonctionnent pas bien. Tous les muscles, alors il y a des muscles par exemple, les muscles du périnée, les muscles comme ça, ceux qui permettent que le corps se ferme, on va dire, s'ouvre.
De l'incontinence derrière.
Oui, il y a de l'incontinence, bien sûr. Il y a des tas de choses, de l'incontinence urinaire ou fécale.
Et ça peut aller jusqu'au décès, hein, je crois.
Et ça, c'est toutes les conséquences sur le développement. Et puis, par ailleurs, il y a des problèmes de potassium qui peuvent arriver, en particulier qui sont les plus graves. Et on peut encore en mourir. Heureusement, on a fait énormément de progrès sur la renutrition des patients anorexiques, ce qui fait que la mortalité diminue. Mais c'est vraiment une pathologie tragique et on peut encore en mourir aujourd'hui.
Alors on va passer au diagnostic. Justement, il y a peut-être des parents qui inquiets, hein, qui se demandent, en nous écoutant, si leur fille n'est pas en train de basculer vers ça. Comment on le fait, ce diagnostic? Et d'ailleurs, est-ce que c'est très important de dépister très tôt cette maladie? Est-ce que le pronostic, du coup, est meilleur? Ou parfois, elles arrivent trop tard, au bout déjà d'un an, deux ans de dénutrition, du coup?
Alors, comme toujours, il est important de le faire tôt. Mais ce qui doit alerter... c'est, bien sûr, on mange moins, on maigrit, mais surtout, l'alerte, c'est sur le fait qu'il y a un déni de l'amaigrissement. Parce que, en fait, lorsqu'on est anorexique, on ne se voit pas maigrir, on ne se voit pas. On a une modification de la représentation de son corps. Donc, d'où aussi le fait qu'elles disent qu'elles ne sont pas malades. Donc, ce qui doit nous alerter, c'est bien sûr l'amaigrissement et le fait qu'on ne mange pas, mais que l'on ne reconnaisse pas cela et qu'il y ait des choses associées. De la tristesse, de la difficulté, une sorte d'hyper-investissement de l'école et rien d'autre ne compte, des changements brutaux dans le comportement, c'est ça qui doit nous alerter.
Et en termes de poids ou d'indice de masse corporelle, est-ce qu'il y a un chiffre à partir duquel on doit se dire « oh là là, on est en train de basculer vers du pathologique ?»
Alors non, enfin l'IMC, hein, qui est à la fois le poids et la taille, hein, c'est un rapport du poids sur la taille, ça nous inquiète bien sûr, évidemment, si vous avez 15 IMC, c'est très grave. Mais la gravité vient aussi de la rapidité de l'amaigrissement et de la manière dont elle tolère l'amaigrissement. Donc en réalité, il n'y a pas de chiffre, ça dépend d'où on part, ça dépend aussi comment on se sent. Et puis, j'insiste sur le fait que ces aspects somatiques sont très, très important, mais s'ils sont associés à de la souffrance psychologique comme de la tristesse ou de la perte de l'envie de vivre du futur, ça c'est extrêmement grave aussi, bien, enfin ça vient renforcer la gravité de la dénutrition. Et le deuxième risque, on a dit qu'on pouvait mourir d'anorexie, mais on peut aussi mourir d'une tentative de suicide. C'est une des choses qui arrivent au décours de l'anorexie et qui sont liées à la souffrance psychologique sous-jacente.
Là, on a parlé beaucoup de restrictions alimentaires, mais il faut savoir aussi qu'il y a certaines anorexiques, certaines patientes qui souffrent d'anorexie, qui font des crises de boulimie avec des vomissements. Ça peut mettre la puce à l'oreille aux parents. Peut-être on s'en rend un peu plus compte aussi.
Mais ça, c'est dans le décours, dans l'évolution de la maladie. C'est-à-dire qu'on peut être anorexique. Et puis, en fait, c'est presque dans des moments presque de guérison, on devient un peu boulimique, c'est-à-dire qu'on retrouve, mais de manière impulsive, on s'était opposé à l'envie de manger, on lâche, et là, on mange trop.
Hyperphagie.
Et parfois, on rentre aussi par la boulimie. Donc ça, en fait, c'est les deux phases d'une même problématique.
Alors, vous l'avez dit, il y a souvent on néglige, ou en tout cas, on n'a pas conscience qu'on perd du poids. Comment est-ce qu'on fait quand on est parent, pour traîner son ado justement chez le médecin, puisque l'ado, par définition, n'a pas conséquence qu'il y ait un problème,
qu'il y a un problème. Ça fait partie de la difficulté, hein, c'est que les ados qui rentrent dans l'anorexie dénient totalement, et même lorsqu'elles sont hospitalisées, elles disent qu'elles sont pour autre chose parfois, hein, tellement elles le dénient. Alors là, c'est là la fermeté des parents, c'est-à-dire que les parents, à partir du moment où ils reconnaissent le fait qu'il y a à la fois un amaigrissement, une lutte contre le désir de manger, et puis des conséquences importantes, à ce moment-là, il faut aller consulter son médecin généraliste, le pédiatre, ça peut passer par l'infirmière scolaire. Il y a ce premier niveau où un travail ensuite va se mettre en place.
Professeur Moreau, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à l'anorexie mentale cet après-midi. À présent, on va parler de la prise en charge de ces patientes. Comment les aider à guérir? L'hospitalisation est-elle toujours indispensable? Une fois guérie, n'y a-t-il pas un risque de rechute? On va vous détailler tout ça dans un instant. Restez bien avec nous.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Bien-être, Santé est de retour très vite. Juste le temps d'écouter un peu de musique. C'est le chanteur Jérémy Frérot avec son dernier titre, Un homme.
Regarde comme je suis, un carré de poing. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi, ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi? Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je change tant, je lance et je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi? Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille, un peu de rien, un peu de folie, un peu loin, un peu ici, un peu rêveur, un peu spleen, un peu joueur, un peu clean, un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud, un peu plus bas, un peu d'ego, un peu de sale, un peu de salaud, un peu de calme, un peu de candeur, un peu de vice, un peu de daron, un peu crise, un peu nature, un peu glace, un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi?
Ça fait du bien, un peu de musique sur Europe 1. C'était Jérémy Frérot avec le titre Un homme.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est le professeur Marie-Rose Moreau. Vous êtes professeur à l'Université de Paris et vous dirigez également la Maison de Solène, Maison des Adolescents à l'hôpital Cochin à Paris. Alors professeur, on va parler à présent de la prise en charge de l'anorexie mentale. Quand même déjà, est-ce que c'est facile pour les parents d'arriver à vous amener ces jeunes filles en consultation? On imagine bien, Jimmy l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais ça ne doit pas être évident puisqu'ils sont forcément dans ce déni. Comment ils doivent s'y prendre? Vraiment, si vous disiez, on va d'abord chez le généraliste, ça suffit pour démarrer une prise en charge et lui peut-être va... Parce que finalement, c'est quand même le pédopsychiatre qui va prendre en charge derrière, non ?
Oui, c'est le pédopsychiatre qui va prendre en charge avec toute une équipe, hein, parce que c'est toujours pluridisciplinaire. Mais moi, je conseille que le premier interlocuteur soit le médecin généraliste. Pourquoi ? D'abord parce que et le poids, il faut regarder comment ça fonctionne, éventuellement s'il y a un signe d'urgence... comme par exemple un problème cardiaque, ou des choses comme ça. Mais après, la prise en charge de fond, bien sûr, elle va se faire en pédopsychiatrie avec des équipes spécialisées en troubles du comportement alimentaire si besoin.
Et souvent, quand on parle de pédopsychiatrie, de psychiatrie d'une façon générale, on a l'impression que la case obligatoire, c'est l'hospitalisation. Est-ce qu'on doit forcément être hospitalisé quand on souffre d'anorexie mentale ?
Ah non, surtout pas. Hein, c'est 10% à peine des anorexies que je mets au pluriel, parce qu'il y a plein de formes différentes, vont être hospitalisées. Et encore, pas toutes dans des lieux spécialisés pour ces pathologies. Non, c'est d'abord ambulatoire. Il y a deux principes importants sur lesquels on est tous d'accord, quelles que soient les différences. Le premier, c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut être plusieurs. Alors, ça peut être le pédopsychiatre, le psychologue, la diététicienne, une psychomotricienne, pour travailler sur le corps, ou même des techniques sophrologiques, yoga, pleine conscience, n'importe quelles, toutes ces techniques qui vont aider
aussi,
à travailler sur le niveau de tension, en plus de l'aspect médical, somatique et psychiatrique. Et puis, il y a un traitement de choix, hein, vraiment sur le plan international, les études, elles sont très très claires, c'est la thérapie familiale.
Ça veut dire quoi? Ils vont tous en famille.
Oui, voilà.
Parce que la famille n'est pas malade, la famille n'a pas de problème.
Non,
pourtant, c'est un peu contre-intuitif. Hein.
On n'y pense peut-être pas tout de suite, mais c'est facile à expliquer en tous les cas. Voilà une jeune fille qui ne peut plus manger et qui, obsédée, modifie totalement sa vie par rapport à ça. Vous imaginez ce que ça fait vivre à une famille. Hein. Ça fait exploser une famille, la question de l'anorexie de l'adolescent. Donc, cause ou conséquence, le meilleur allié, c'est la famille. Et pour faire ça, il faut prendre en charge l'ensemble de la famille.
Donc papa, maman, les frères et sœurs,
s'il
le faut.
Ah oui, papa, maman, le beau-père, la belle-mère, éventuellement, quand il y a des familles recomposées. On peut même parfois mettre une grand-mère ou un grand-père quand c'est nécessaire.
Et ils se disent quoi en consultation ?
Eh bien, on essaye de comprendre on est arrivé au fait qu'un des membres de la famille ne puisse plus finalement rester en vie, puisqu'il y a une menace vitale.
Bien sûr.
Et que la famille, la mère, le père, perdent leur capacité à protéger cet enfant, puisque si on définit...
Vous n'êtes pas à la recherche du coupable, c'est pas ça l'idée.
Non, mais il n'y a aucune culpabilité.
Parce que les parents doivent l'avoir, la culpabilité quand même.
Ah, mais les familles comprennent très bien. Ouais. Le meilleur allié du traitement, c'est la famille. On a besoin de la famille. Et c'est ça qui marche. Et c'est vrai que parfois, les familles se disent, mais au fond, c'est ma fille qui ne mange pas, pourquoi vous me proposez une thérapie familiale ? Mais dès qu'on explique cause ou conséquence, encore une fois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses, effectivement, je ne sais pas, des secrets, par exemple, que la jeune fille va porter comme ça dans son corps. Mais la plupart du temps, ce n'est pas une cause, c'est... ou un trauma. Vous savez que l'anorexie apparaît beaucoup dans des situations traumatiques également. On a vécu des traumas à l'intérieur ou à l'extérieur de la famille, et ça va... Je ne peux plus manger, je ne peux plus rien mettre dans ma bouche. Mais vraiment... En termes d'alliés, j'insiste beaucoup, on prend l'ensemble de la famille et on va essayer de comprendre comment on est arrivé là et qu'est-ce qu'on a comme ressources à l'intérieur de la famille pour sortir de ce cercle vicieux. Parce que c'est vraiment un cercle vicieux. Une fois qu'on est dedans, même les parents ne peuvent plus penser à rien d'autre. C'est-à-dire qu'à chaque repas, c'est une torture.
Ouais.
À chaque repas,
ça revient tous les jours et plusieurs fois par jour.
Et ça revient plusieurs fois par jour, et donc avec des stratégies de dissimulation, etc. Et on perd toute capacité d'authenticité, de communication. Donc on va rétablir tout ça. Et il y a même des techniques que nous faisons, nous, à la Maison de Solène, mais il y a d'autres équipes, ça vient d'Angleterre et d'Argentine. Il y a même ce qu'on appelle des thérapies multifamiliales. C'est-à-dire qu'on met ensemble plusieurs familles qui ont souffert de la même chose, qui ont des enfants anorexiques, et on essaye de voir comment chacun, quel type de ressources, quel type de stratégie chacun a trouvé. Et on met ça en commun. Et on fait une dizaine de séances, puis après on voit, parfois en 10 séances ça suffit, mais parfois on doit faire de la thérapie unifamiliale, comme on dit, chaque famille toute seule. Et c'est vraiment essentiel, cette dimension familiale, c'est vraiment très très important, parce que c'est une alliance incroyable et efficace.
Alors c'est marrant, vous avez parlé de prise en charge pluridisciplinaire, ensuite de thérapie familiale, de thérapie multifamiliale, et on n'a toujours pas parlé de la réalimentation, de reprendre du poids. Ça veut dire que
c'est un objectif,
quand même, mais c'est pas... Parce qu'on a tendance à dire, il faut manger, allez, il faut se gaver comme une oie en quelque sorte.
Non,
alors,
bah
c'est
non.
Pas du tout ça.
Ah non, mais ça... Alors bien sûr, hein, lorsqu'on doit hospitaliser une jeune fille, ça arrive, les 10% dont j'ai dit, qui sont vraiment dans des états de dénutrition absolue, on les hospitalise. Et là, il y a un programme de renutrition qui doit être un programme très maîtrisé. Parce qu'il faut apprendre.
On y va doucement. Hein,
oui,
faut pas,
très,
ouais.
très doucement, très, très doucement, parce que sinon, c'est pire
on
que tout.
On peut leur faire du mal, oui, bien sûr.
Oui, oui, oui. Et on les renutrit avec différentes techniques. Mais ça, c'est pour passer un cap. Et après, en fait... Bien sûr, l'adolescente, elle va réapprendre à manger toute seule.
Sans médicaments, sans traitement. On passe
alors, ça dépend. Si, par exemple, elle est déprimée, elle a des angoisses qui vraiment...
Vous arriver de prescrire des antidépresseurs, par
oui,
exemple.
Ou des neuroleptiques pour les angoisses. Non, il peut y avoir des médicaments, mais il faut les manier avec douceur et dextérité, parce que sur ces très jeunes filles, faut faire très attention. Mais non, ils sont parfois nécessaires. Pour passer un cap, c'est comme la renutrition, ouais. C'est pour passer un cap, parce qu'après, l'idée, c'est de retrouver sa capacité à manger.
Et ça marche, on a des résultats, parce qu'on donne une note d'espoir. On guérit de l'anorexie.
On guérit de l'anorexie majoritairement, mais très majoritairement. Il doit y avoir à peu près... Alors, quand moi j'ai commencé mes études, donc il y a une trentaine d'années, c'était un tiers. C'est-à-dire qu'il y avait un tiers de mortalité quasiment.
Et en combien de temps guérissent aussi parce que...
Un tiers de... qui guérissait et un tiers de... qui devenait chronique. On n'en est plus du tout là. Les traitements, on va dire que plus de 90% des jeunes filles anorexiques guérissent totalement de leur anorexie. Mais parfois en plusieurs années. Voilà, parfois bien. En plusieurs années. Parfois 2, 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire qu'on va les accompagner pendant toute cette période de devenir adulte. Et il y a une petite frange inférieure à 10% qui en fait devient adulte sans se débarrasser totalement de cette difficulté. Et alors après, ça va prendre des formes différentes parce que lorsqu'on est dénutri longtemps comme ça, on peut être triste, on peut avoir des troubles de la personnalité. Donc voilà, après, ça va devenir dans une souffrance plus chronique. Mais à tout âge, on peut quand même en guérir. Il faut tenir, comme disait la dame qui a téléphoné tout à l'heure.
Très bien. On va terminer sur cette touche positive. Merci beaucoup, professeur Moreau, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien focus sur l'œdème de Quinck, une réaction allergique qui peut être très impressionnante. Alors comment réagir si vous vous trouvez un jour face à cette urgence? Comment la traite-t-on? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors, à présent, on va passer à notre séquence. Vous le savez bien, les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur l'œdème de Quinck. Savez-vous ce que c'est? Savez-vous ce qu'il faut faire si cela arrive un jour à l'un de vos proches? Comment les médecins prennent-ils en charge cette urgence? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite ce que ça donne.
Alors l'œdème de Quinck, je connais pas du tout.
C'est un étranglement de la gorge avec un léger gonflement et c'est assez dangereux quoi.
Ah c'est quand suite à une réaction, par exemple une piqûre d'insecte, on réagit et ça nous fait, on gonfle, soit sur le visage, une partie du corps, là où on a été piqué.
Un œdème, ouais, c'est quelque chose de, c'est dermatologique.
J'ai vécu en fait une expérience avec mon fils qui avait peu près 200. Le médecin a prescrit un médicament et l'enfant a fait en fait une réaction allergique. En fait, il ne pouvait plus respirer.
Alors Quinck, je pense que moi, c'est le nom de la personne qui a donné cet œdème, quoi, qui a baptisé cet œdème. Donc c'est celui qui l'a découvert, qui a dû réfléchir dessus, trouver une solution, un remède.
Ça peut être risqué quand ça touche proche, bah, par exemple, des voies respiratoires.
Bah, on le traite tout directement avec de la cortisone.
Alors Jimmy, on va reprendre et je crois que vous allez vous faire une petite blague parce que vous la préparez bien depuis tout à l'heure. Je dis mal peut-être le sujet du jour. Notre bobo du quotidien aujourd'hui, mot du quotidien, c'est l'œdème de Quinck.
Oui, c'est ça exactement.
On ne dit pas ça?
On ne dit pas Quinck. Attention, par pitié.
J'ai alors, pas dit Quinck,
non, mais
dit
heureusement, mais certains des francophones le disent, c'est insupportable. Et si un jour vous venez me voir en disant j'ai un œdème de Quinck, je ne vous traiterai pas.
Quinck.
Vous dites, oui exactement, c'est le canard qui fait Quinck.
C'est quoi l'œdème de Quinck?
L'œdème de Quinck.
Ah, donc je l'ai bien dit.
Oui, c'était très bien, Mélanie, voilà. Pour une fois. Alors, c'est le gonflement de la peau et des tissus sous-cutanés, de la muqueuse, du visage et du cou, qu'on va voir se manifester par un gonflement des paupières, de la langue, avec une gêne respiratoire. Et on remarque souvent que les gens ont une très bonne connaissance de ces symptômes, car ils savent qu'il y a une véritable urgence derrière tout ça. D'autant plus que vous pouvez avoir d'autres zones qui peuvent gonfler, notamment les mains et aussi les pieds, puisque c'est tous les tissus qui vont connaître cette inflammation.
C'est quoi la cause? C'est allergique uniquement?
Exactement, la cause principale, elle est allergique. Alors, ça peut être lié à des piqûres d'abeilles, d'insectes, pour lesquels vous êtes allergique. Des médicaments, les plus fréquents, c'est la pénicilline. Ou ça peut être alimentaire. En premier lieu, on a les fruits de mer, mais aussi on peut avoir les fruits à coque. Et chez l'enfant, l'œdème de Quink est responsable de 50% des allergies alimentaires. C'est dans 50% des cas, c'est une allergie alimentaire. Et chez l'adulte, dans un quart des cas, on ne sait pas pourquoi on fait cette allergie. Mais la cause principale, c'est de l'allergie.
Vous qui avez fait de la médecine d'urgence, j'imagine que vous en avez déjà pris en charge. C'est une urgence vitale, vraiment
C'est une urgence, puisque c'est un gonflement des tissus sous-cutanés au niveau de la gorge. Donc, vous avez des structures anatomiques qui sont extrêmement vitales, notamment pour la respiration.
Si ça se bouche, on ne peut plus respirer.
Exactement.
On meurt,
imaginez
donc on peut
votre cuvette qui gonfle, la gorge avec la langue qui gonfle. Eh bien, l'air ne passe pas et donc il y a un risque d'asphyxie. On peut aussi faire une crise d'asthme extrêmement sévère. Donc, c'est une urgence qu'on traite essentiellement avec des anti-allergiques, qu'on va faire souvent en injection ou en comprimé, des corticoïdes, la cortisone.
Ce que j'allais vous dire, moi, si j'ai quelqu'un qui fait ça en face de moi, j'ai rien à faire à part appeler le 15, je ne peux pas l'aider.
C'est l'urgence absolue. C'est d'abord, un, appeler le 15, poser exactement ce qui se passe, le temps que ça s'améliore ou pas. Deux, si vous aimez, il y a des corticoïdes qui traînent à la maison, eh ben on leur donne sous forme de comprimé. Ça marche aussi rapidement qu'en intraveineux.
D'accord.
Et puis, dans certains cas, lorsqu'on sait qu'on a fait une allergie, en général, les gens connaissent ce terrain, eh bien, ils ont de l'anapène, un stylo avec de l'adrénaline injectable qu'on fait au niveau de la cuisse, qui permet justement de réouvrir. Exactement, c'est une urgence absolue, en attendant que les secours viennent vous traiter. Et puis ensuite, il faut identifier l'allergène, car la fois d'après, si jamais vous reprenez l'aliment ou le médicament pour lequel vous êtes allergique, eh bien, la réaction va être encore plus sévère. Et ça peut évoluer vers ce qu'on appelle l'anaphylaxie, avec la baisse de la tension artérielle, et on peut en mourir. Donc, pour sauver des vies, il faut connaître l'allergie que vous avez et ne pas hésiter. À ce moment-là, on appelle le 15.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La chronique sexo de Catherine Blanc, ce sera juste après un peu de musique. On va écouter la chanteuse Duffy et son titre Mercy.
I love you.
C'était la chanteuse Duffy sur Europe 1 avec son titre Mercy.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes bien sûr avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va découvrir la question de Fabien. Écoutons-la.
Bonjour Catherine. Voilà, je voulais vous parler de mon couple, en fait, avec mon copain. Quand on a des rapports sexuels, en fait, il a pris cette fâcheuse habitude de toujours vouloir consommer du poppers pendant les rapports. La première fois, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu amusant, mais voilà, ça fait quand même 6 mois, ça dure toujours, il faut toujours en fait prendre du poppers. Je voulais savoir si vous pensez qu'il peut être accro aux poppers ou c'est parce que il a plus envie de moi.
Alors Catherine, avant peut-être de rentrer dans le détail, on va dire psychologique de cette question, peut-être un mot sur le poppers dont parle ce jeune homme. C'est quoi cette substance? Pourquoi certains l'utilisent pour les rapports sexuels?
Alors d'abord pour des questions euphorisantes, hein, puisqu'elle n'est pas considérée comme une drogue. Donc de fait, il y a l'idée d'une euphorie, comme au même titre que l'alcool pour d'autres, pour mettre une sorte d'ambiance de fête. Il y a un effet vasodilatateur qui entraînera notamment, c'est pour ça qu'on l'a considérée particulièrement consommée par les couples gays, parce que pour permettre une dilatation, encore que ça ne marche pas du tout sur toutes les personnes qui l'utilisent. Et aujourd'hui, c'est beaucoup les jeunes gens qui cherchent un peu cette évasion, cette euphorie pour aller tambour battant dans la sexualité, peut-être pour éviter ce qui les inquiète de la sexualité.
Du coup, est-ce qu'on peut parler d'abus de substance, vu qu'on prend ça pour... non pas, on pourrait le comprendre si c'est avisé de, je sais pas, dilatation, et on va se dire que ce sera plus facile, moins douloureux.
Ouais,
un truc purement mécanique, mais là, c'est le côté euphorisant. Si on a besoin pendant 6 mois d'utiliser cette chose, c'est un peu comme une drogue en fait. C'est-à-dire que là, il y a un mésusage.
Oui, c'est-à-dire que c'est considérer que la relation elle-même ne va pas apporter cette euphorie, que la sexualité n'apporte pas cette euphorie, que l'enthousiasme ou l'excitation de la relation ne le permet pas. Et du coup, chercher dans un extérieur cette mise en scène et qui du coup fait louper, et je pense que la question est une très bonne question, est-ce que est-ce qu'il n'a pas envie de moi, c'est est-ce qu'il est apte à me rencontrer ou est-ce qu'il faut absolument m'utiliser comme utiliser le popper pour, j'allais dire, se raconter une histoire excitante, en rappelant que le poppers donne un effet très court. Hein. C'est donc, du coup, ça oblige à reprendre et reprendre. Ouais. Donc ça raconte plutôt une difficulté de ressenti, une difficulté de plaisir, une difficulté d'excitation, que seul le poppers, dans ses effets comme ça, soudain, va pouvoir offrir. Mais du coup, il ne se donne même pas la possibilité de faire confiance dans son cheminement relationnel, dans son cheminement sexuel, à la sexualité et à la relation, pour vivre des choses intense et il va les chercher dans un extérieur, ce qui est évidemment extrêmement triste.
Alors Fabien pose la question de savoir si son conjoint est accro au poppers. Alors vous disiez c'est un effet très court, c'est pas forcément considéré comme une drogue. Enfin moi je considère qu'à partir du moment où on a besoin d'un starter, que ce soit ça ou l'alcool pour se lancer dans une relation sexuelle, oui, ou le sucre, c'est qu'on est accro. Donc oui, il y a un problème d'addiction.
Il y a un problème d'addiction. C'est pas parce que c'est pas une drogue étiqueté comme étant une drogue, que ce n'est pas une drogue pour l'individu. C'est pour ça que je disais comme le sucre. C'est-à-dire, on ne va pas dire on ne touche plus au sucre, c'est une drogue, mais on sait très bien que la consommation de sucre entraîne un désir de consommer du sucre.
Donc oui, il y a une addiction.
Donc il y a une addiction et effectivement une incapacité du coup à fabriquer soi-même les hormones jouissives, mais n'attendre que le produit pour avoir cet état de jouissance.
Et qu'est-ce qu'on doit conseiller à Fabien? De planquer le poppers, de le cacher, de dire écoute, c'est comme ça et pas autrement, je suis là, si tu ne veux pas de moi sans poppers, bah, y a pas de moi tout court.
Je crois que c'est la même question, vous avez raison, c'est la même question que si je dois faire l'amour avec quelqu'un qui, pour faire l'amour avec moi, a besoin de boire. Est-ce que j'ai envie d'être mêlée
à
une histoire,
quand même, ouais.
Oui, est-ce que j'ai envie d'être mêlée à une histoire où je ne suis pas moi, acteur ou actrice de la relation et de la joie de la relation, et quelle est la fuite de l'autre qui a besoin absolument pour se donner du cœur à l'ouvrage, se donner le droit de faire l'amour, se donner le droit de traduire son excitation d'une manière ou d'une autre sans pouvoir la faire jaillir de lui-même, mais toujours sur un phénomène extérieur. Oui, je crois qu'il faut savoir dire stop, ça ne correspond pas à ma sexualité, c'est un dénigrement de moi, un irrespect.
Ça
ne
veut pas dire qu'il doit le larguer, il peut lui conseiller d'aller consulter, surtout pour régler ce problème-là d'abord.
C'est ça ? Bien sûr, mais en tout cas, on peut dire je ne veux pas être enfermé moi-même dans ce dans quoi tu t'enfermes toi, dans cette façon d'envisager la sexualité.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient demain, même heure, sur Europe 1. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Et oui, aujourd'hui, vous connaissez le club des 27?
Oui, non.
C'est un club de
c'est
gens...
C'est pas un club échangiste, Mélanie. C'est un... Là, vous avez tenté de la piéger.
J'ai un petit doute, là.
Non. C'est pas du tout ce que vous croyez.
Est-ce que je l'ai fréquenté? Non. C'est... Pardon de vous le dire, Mélanie, mais c'est un peu trop tard. Oui, c'est le club des gens qui sont morts à 27 ans.
À 27 ans. Oh, non, deux ans près, mais vous auriez pu en faire partie.
Qui vous dit que je n'ai pas 27 ans, franchement?
C'est vrai qu'il est goujat.
Hein. Un peu, là, je trouve.
J'ai votre CV entre les mains.
Alors, le club des 27, normalement, ça concerne des rockstars. Ouais. On pense à Jim Morrison.
Ah, oui,
effectivement, bien sûr.
Effectivement,
on pense à des gens comme ça qui sont
mortes à 27 ans.
Janis Joplin, Amy Winehouse, dont je vais parler. Mais pour Stéphane, le club des 27, c'est aussi...
Elephant Man, Joseph Merrick. Et puis, il était beaucoup plus rock qu'on ne le croit, le roi Charles VIII de France.
Si vous voulez découvrir le côté rock de Charles VIII, restez avec
Charles VIII, rock and roll,
super. Il s'est pris un rock dans la tête. Il est mort.
C'est comme ça qu'il est mort. Vous allez voir, c'est vrai en plus. C'est vrai.
Très bien. Mais écoutez, on va rester pour vous écouter, bien évidemment, avec Jimmy et Catherine. On se régale tous les après-midi. On reste avec vous sur Europe 1 et vous aussi, faites la même chose.